Bonjour à tous. Je suis heureux pour le temps de la prédication de pouvoir être avec vous, de partager avec vous quelques-unes des leçons, quelques-uns des enseignements que nous pouvons tirer du livre de 1 Samuel, le premier livre de Samuel. Commençons par un mot de prière. Père Céleste, toi qui as créé l'univers, nous nous tournons vers toi. Apprends-nous à lire. Apprends-nous à lire tes enseignements au fil des pages de la Bible, ce livre qui raconte, qui enseigne tes bienfaits, qui enseigne ce que tu veux que nous apprenions, afin de pouvoir venir à toi. De pouvoir apprendre à t'aimer, à accueillir ton Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur et délivré du péché, à vivre une vie d'amour et de vérité. Guide-nous, Seigneur. Enseigne-nous à travers Samuel, Saül et David aujourd'hui. Je prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons aujourd'hui parcourir brièvement les histoires que nous trouvons dans le premier livre de Samuel. Dans ce livre, nous avons trois personnages principaux: Samuel, Saül et David. Le titre en dessous de 1 Samuel que vous pouvez lire sur le graphique, sur l'image, du juge Samuel vers le futur roi David. Ce sera le livre de 1 Samuel. Nous commencerons avec ce prophète qui s'appelle Samuel et nous finirons juste avant que David devienne roi. La phrase que j'aimerais que vous méditiez, qui est au cœur de ce livre, est la phrase que nous trouvons sur la droite du texte projeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. On pourrait dire aussi, l'homme se préoccupe de l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dans ce monde, nous sommes tentés de prendre beaucoup plus de temps à travailler notre apparence, à choisir des lunettes, des chaussures, des habits, à nous préparer, à choisir lesquels on va mettre tel matin, lesquels on va acheter, comment on va paraître, que de prendre du temps à habiller notre cœur, à mettre notre cœur dans un habit qui soit honorable pour Dieu, un habit d'amour pour Dieu, un habit de compassion, de miséricorde et de douceur. Et nous allons voir dans ce livre de 1 Samuel comment Dieu n'est pas dupe. On ne peut pas paraître avec lui et espérer qu'il va croire ce que nous essayerons de faire croire en prenant une belle apparence, mais qu'il voit au cœur. Nous passons à la page suivante, au graphique suivant pour la projection, où nous avons un survol de l'ensemble du livre de 1 Samuel sur la gauche. Cette feuille que vous voyez est la même que celle que vous avez dans vos mains, en petit format. Et du côté droit, l'image d'abord pour ce livre de 1 Samuel, où vous pouvez reconnaître le marteau du juge pour se rappeler que Samuel était juge. C'est-à-dire qu'on lui posait des questions et qu'il tranchait dans des difficultés que les gens avaient entre eux. Et juste en dessous, nous voyons la couronne du roi qui nous rappelle que c'est dans ce premier livre de Samuel que nous aurons les premiers rois d'Israël. En fait, le premier roi qui sera Saül. Mais comment dans ce premier livre déjà, on se prépare à voir la venue sur le trône du roi que Dieu va préparer, David. Et nous aurons deux versets clés qui sont sur le côté droit aussi. 1 Samuel 15, verset 22. Et le second sera 1 Samuel 16, verset 7, que nous allons voir un peu plus tard, alors que nous les aborderons au cours de l'histoire de ce livre. Comme vous le voyez sur le côté gauche, il y a trois histoires en haut. La première, les chapitres 1 à 6, Samuel et l'Arche. Nous présenterons l'histoire de Samuel depuis son enfance jusqu'au moment où il deviendra adulte. Ensuite, les chapitres 7 à 12, nous pourrons découvrir Samuel qui sera juge et comment Saül va être choisi comme roi. Ensuite, au chapitre 13 à 17, troisième partie, Saül sera rejeté et David sera oint, préparé à devenir roi bientôt. C'est la première partie, où on voit un passage entre Samuel, Saül et une préparation à venir à David. La deuxième moitié du livre, qui est la partie basse du graphique, correspond à la tension qui va exister entre Saül et David. Comment Saül va devenir jaloux au chapitre 18 à 20. Comment au chapitre 21 à 26, Saül va essayer de tuer David, mais ne le pourra pas. Et au chapitre 27 à 31, en bas à droite, comment ce sera les Philistins qui tueront Saül. Préparant ainsi la venue à la royauté de David, qui sera le sujet du livre suivant, deuxième livre de Samuel. Maintenant, commençons à découvrir l'histoire de ce livre. Nous pouvons tourner à la page suivante pour le graphique projeté. Chapitre 1 à 6, Samuel et l'Arche. Rappelez-vous que nous sommes à la fin, arrivés juste après le livre des juges. Il y a 2 semaines, il y avait la prédication sur ce livre, dans lequel on découvre comment il y avait un cycle infernal, avec 4 étapes. Ce cercle infernal, c'était, premier problème, c'était l'idolâtrie. Ensuite, peut-être certains d'entre vous se rappellent, juste après l'idolâtrie, qu'est-ce que c'était la conséquence? C'était l'esclavage, l'asservissement à d'autres peuples, à d'autres rois. La troisième partie, troisième phase de ce cercle infernal, c'était qu'ensuite, oui, le peuple se repentait et priait. La quatrième étape de ce cercle, c'était que Dieu envoyait un juge, un serviteur, un homme ou une femme qui allait permettre de délivrer Israël, son peuple qu'il aimait. Et tout le problème du livre des juges, c'est que, après cette quatrième étape de délivrance, le peuple rapidement retombait dans l'idolâtrie et se fermait ainsi la boucle, ce cercle infernal de souffrance inutile, de souffrance liée au péché, conséquence du péché. Dans ce cadre du livre des juges, nous avons vu comment Ruth était un exemple touchant de fragilité, comment cette femme qui accompagnait sa belle-mère, Naomi ou Noémie, suivant comment on l'écrit en français ou en hébreu. En hébreu, c'est Naomi, et souvent en français, vous aurez Noémie. Après cette histoire de Ruth, touchante par la protection que Dieu a donnée à ces femmes fragiles, et comment un homme, Boaz, les a protégées, lui qui sera l'ancêtre de David, nous arrivons maintenant au premier livre de Samuel, et le premier chapitre nous raconte la naissance de Samuel, comment Anne, une femme fragile, qui est la deuxième femme d'un époux Elkanah, qui est méprisée par la première femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle va supplier Dieu et Dieu va lui accorder un fils. Ce fils, elle l'amènera pour qu'il devienne serviteur de Dieu et il va grandir près du temple. Ça sera l'histoire du chapitre 2 où le jeune Samuel va être élevé en partie par Élie, le prêtre, et va apprendre progressivement à être finalement un serviteur de Dieu, un prêtre. Et alors que Élie a des fils qui sont infidèles, des fils qui profitent des offrandes des autres, qui n'ont pas une attitude respectueuse, lui, Samuel, sera respectueux et humble. Et Dieu va punir les fils de Élie et Élie parce qu'il n'a pas repris ses enfants. Une petite observation peut être faite. Le nom Élie que vous trouvez ici s'écrit E accent aigu L-I en français. Il n'est pas le même nom que celui du prophète Élie, E accent aigu L-I-E, dont nous entendrons parler dans le premier livre des rois, deux livres plus loin dans la Bible. Donc au chapitre 3, nous voyons comment Dieu va appeler Samuel. Il va l'appeler avec beaucoup de délicatesse, Samuel étant couché. Dieu l'appellera et Samuel, ne connaissant pas encore la voix de Dieu, va venir voir le prêtre Élie en lui disant au milieu de la nuit, « Élie, pourquoi vous m'avez appelé? Je suis là, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le prêtre, ne comprenant pas, se réveillant, lui dira, « Non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. » Le jeune Samuel va se recoucher, une deuxième fois il entend une voix. Il va voir le prêtre qui lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Et une troisième fois. Et cette fois-ci, Élie comprend que c'est en fait Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Et il lui dit « La prochaine fois que tu entends la voix, tu répondras à la voix, parle, ton serviteur écoute. » Et c'est à cette troisième appel que Samuel va répondre et Dieu va lui parler. Et la première parole que Samuel va recevoir n'est pas une parole joyeuse. Ça va être la condamnation des deux fils de Élie et de Élie pour leur manque de fidélité envers Dieu. Être prophète de Dieu, être juge, c'est d'abord témoigner de la vérité et par conséquent parfois de dire quand il y a un péché, ce qui sera le cas pour Samuel. Au chapitre 4, nous lirons comment le peuple d'Israël va voir une grande catastrophe pour eux. L'arche de l'Éternel, c'était une sorte de petit coffre dans lequel il y avait les deux tables de la loi, les deux tables des 10 commandements qui avaient été données par Moïse, par Dieu à travers Moïse. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, et il y avait aussi un récipient avec la manne pour montrer que ce qu'avait vécu le peuple d'Israël dans le désert était réel et que leur histoire était vraiment une histoire faite de miracles que Dieu avait réalisés. Cette arche, on considérait qu'elle avait un pouvoir, on se disait c'est vraiment Dieu qui est présent. Et les êtres humains, on a toujours envie de mettre Dieu en boîte. Le but de l'arche n'était pas pour Dieu de dire « Je suis prisonnier de cette petite boîte qui faisait à peu près 1 mètre sur 2 mètres. 1 mètre de haut, 1 mètre de large et 2 mètres de long. » Le but de Dieu n'était pas de dire « Je suis emprisonné dans cette boîte et si vous ouvrez la boîte, je vais en sortir. » Un petit peu comme Aladdin et la lampe magique. Mais il disait simplement « Dieu, à travers cette petite boîte, c'est des signes qui vous rappellent que je suis fidèle et puissant. » Mais les êtres humains, on aime bien essayer de mettre Dieu en boîte. Parce qu'ensuite, on peut l'amener où nous voulons, plutôt que lui nous amène où lui veut. Et c'est ce qui va se passer au chapitre 4. Le peuple d'Israël n'arrive pas à gagner la victoire contre les Philistins, et ils vont faire un raisonnement logique. Nous sommes le peuple de Dieu. Ils oublient un détail, c'est qu'ils sont infidèles à Dieu, qu'ils sont idolâtres, et qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande, d'aimer leur prochain, de prendre soin des faibles. Ça, ils l'ont oublié. Ils se sont juste rappelés qu'ils font quelques offrandes à Dieu et que donc Dieu veut qu'ils gagnent la victoire. Par conséquent, pour gagner cette victoire, comme Dieu ne les aide pas, ils vont aider Dieu à être présent. Comment? Ils vont amener l'arche, ce coffre, cette boîte, avec eux au combat, en se disant, comme ce Dieu qui était si puissant pour nous délivrer d'Égypte va être avec nous. Par conséquent, ils imaginent que Dieu est dans la boîte. On va arriver à écraser les Philistins. Qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, Dieu ne sera pas avec eux. Et cette boîte considérée comme magique sera prise par les Philistins. Et nous arrivons au chapitre 5, avec les maladies liées à l'arche. Les pauvres Philistins croient qu'ils peuvent s'amuser avec le Dieu d'Israël. Ils vont amener cette boîte et ils vont essayer de manifester la puissance de leur Dieu, entre autres le Dieu Dagon, qui était un de leurs dieux. Et ils vont mettre la boîte, ce coffre d'Israël, avec les tables de la loi, avec la manne et le bâton d'Aaron, à l'intérieur de leur temple. Mais la nuit, alors que l'arche d'alliance est dans ce temple, la grande statue de Dagon va tomber par terre, alors qu'elle est à côté de ce tout petit coffre qui fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Ils relèvent leur statue. Deuxième jour, deuxième nuit. La deuxième nuit, non seulement la statue se casse, se tombe, mais se casse. Les deux mains sont brisées et la tête est brisée. Ils se rendent compte qu'il ne faut pas mettre l'arche dans le temple, donc dans ce temple, donc ils vont remettre la statue qui a été cassée. Et donc ils sentent qu'il y a des problèmes. Et ils vont découvrir qu'au milieu de la ville où ils ont mis la statue, où ils ont mis l'arche d'alliance, il commence à y avoir des maladies qui se répandent, comme si cette arche amenait des maladies. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener ce petit coffre dans une autre ville. Dans cette autre ville, il y aura des maladies aussi. Alors les Philistins se disent, on est mal parti. Ce coffre est une malédiction pour nous. Il y a une magie puissante, il y a un Dieu puissant qui est à l'œuvre à travers ce coffre. Autant Dieu n'est pas prisonnier de la boîte, autant les humiliations que les Philistins faisaient subir à ce coffre, qui était un témoignage finalement de la présence de Dieu, Dieu ne l'a pas permis. Et à un moment donné, les Philistins vont renvoyer ce coffre auprès du peuple d'Israël. Ça sera le chapitre 6. Nous allons passer à l'image suivante pour la projection, avec la deuxième partie. Maintenant que nous avons vu le début du ministère de Samuel et l'Arche d'Alliance, nous allons voir comment le peuple d'Israël va chercher à s'assurer la victoire, puisque l'Arche d'Alliance ne leur donne pas la victoire. D'abord, ça va être Samuel qui va leur donner la victoire. Ça sera le chapitre 7. Ils vont prier, ils vont demander l'aide à Samuel, Samuel va les aider, et ils auront la victoire sur leurs ennemis. Ensuite, au chapitre 8, ils vont avoir un problème. Samuel commence à devenir vieux, et ses deux jeunes fils ne sont pas des bons serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas fidèles à Dieu comme Samuel l'a été. Ils ne sont pas aussi. Ce n'est pas aussi grave la situation qu'au temps de Élie, qui avait lui laissé ses enfants faire le mal. Mais c'est une situation grave parce qu'ils se rendent compte que on ne va pas pouvoir demander aux enfants de Samuel d'être juges à la place et de protéger Israël. Par conséquent, au chapitre 8, ils vont venir voir, le peuple d'Israël demande un roi. Ils vont venir voir Samuel et ils lui demandent « Donne-nous un roi ». D'abord, Samuel va se mettre en colère parce que il leur dit « C'est pour être comme les autres peuples autour de vous ». Mais vous n'êtes pas comme les autres autour de vous. Vous êtes différents. Dieu est votre roi. En colère, il va prier le soir, et Dieu va lui dire, « Samuel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi seulement qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette comme le roi. Néanmoins, cependant, je vais te demander de leur accorder cette prière qu'ils ont faite. Ne t'inquiète pas, laisse-les et fais ce qu'ils te demandent. » Aussi, au chapitre 9, Dieu va désigner à Samuel celui qui va jouer ce rôle de premier roi, celui que le peuple d'Israël a demandé comme roi. Pourquoi est-ce qu'Israël demandait un roi? Pour les protéger des ennemis. Donc qu'est-ce qui était important pour ce roi? Qu'il soit fort et que finalement, il soit capable de diriger les armées pour gagner des victoires. Israël ne pense pas forcément que leur péché est intimement lié avec leurs problèmes. Tout comme dans nos vies humaines, souvent, nous n'acceptons pas que un grand nombre de nos problèmes viennent de nos péchés, de nos colères amères, de notre manque de respect envers le prochain. Cela ne veut pas dire que tous nos problèmes sont des conséquences de nos péchés. Mais il est vrai qu'une grande partie de nos problèmes sont liés à notre manque d'obéissance à Dieu, notre manque de soumission à la volonté de Dieu. Nous allons suivre maintenant comment, en Israël, l'histoire va se dérouler. D'abord, au chapitre 9, Dieu va choisir Saül. Il va choisir celui que le peuple demande. Et vous allez voir comment celui que le peuple demande est exactement l'opposé de celui que Dieu jugera comme un bon roi. D'abord, Saül, au chapitre 9, on découvre que c'est un jeune homme qui est très grand. Il fait une tête de plus que tous les autres. Le plus grand de tout Israël. Il devait faire plus de 2 mètres. Rappelez-vous que dans toute la Bible, les seules personnes décrites comme très grandes, ce sont les rois ennemis d'Israël, comme Og, le roi de Bassan, que l'on découvre dans le livre des Nombres et aussi au début de Deutéronome. Ou bien, par exemple, nous verrons bientôt le géant Goliath, qui est un ennemi d'Israël. Là, en l'occurrence, Saül est celui qui est très grand. Donc la grandeur est un premier caractère de Saül. Deuxième caractère, on le découvre parce que Saül, quand on le rencontre au chapitre 9, est en train de chercher les ânesses de son père Kish. Son père a perdu les ânesses, ou plutôt, son fils Saül n'a pas été capable d'être un bon berger. Il a laissé les animaux s'enfuir. Non seulement il n'a pas été un bon berger parce qu'il n'a pas gardé les animaux, mais encore pire, ce n'était pas des petits animaux, ce n'était pas des petites brebis ou des petits agneaux qu'il a laissé partir, c'est les grandes ânesses. Vous voyez que Saül est très grand, qu'il n'est pas un bon berger. Et ensuite, un troisième élément, Saül, quand il s'approche de la ville où Samuel, le prophète, se trouve, son serviteur va lui dire « Viens, on va demander conseil au prophète Samuel, à l'homme de Dieu qui est dans cette ville. » Le serviteur de Saül sait qu'il y a un homme de Dieu qui est Samuel. Mais Saül, lui, ne sait même pas. Il lui dit « Mais qui est ce monsieur ?» Et une fois qu'il apprend qu'il va peut-être pouvoir l'aider à trouver les ânesses, ensuite, quatrième élément, donc on a vu que Saül est très grand, que Saül est un mauvais berger, qu'il ne connaît pas les hommes de Dieu, troisième point, qu'il ne s'y intéresse probablement pas. Quatrième point, quand il apprend qu'on va pouvoir demander la prière à cet homme de Dieu, il va lui amener de l'argent. Parce qu'il croit qu'on peut acheter les hommes de Dieu, on va leur donner quelque chose et ils vont faire ce qu'on leur demande. Eh bien ça, c'est la position des idolâtres au temps d'Israël, des polythéistes, de ceux qui croient que Dieu est un Dieu d'argent. Il suffit qu'on fasse des choses pour lui, et lui va faire des choses pour nous. Comme si on pouvait acheter Dieu. C'est Saül, cet homme, pourtant, que Dieu va choisir pour enseigner son peuple, enseigner les conséquences de ses choix. Parfois, nous aimerions dire que quand on fait une bêtise, on voudrait l'annuler tout de suite. On voudrait, quand on a fait une bêtise, qu'elle soit effacée. Mais souvent, cette bêtise est liée à une attitude qui n'est pas juste dans notre cœur. Et tant que nous n'avons pas reconnu que cette attitude n'est pas juste, il ne sert à rien d'effacer cette bêtise. Si c'est pour qu'on la refasse juste après. Ça a été le problème au temps des juges, où Israël répétait la même bêtise, la même idolâtrie, les mêmes péchés régulièrement. Et toute la grâce de Dieu, son amour manifesté à travers des juges, ne servait à rien, parce qu'ensuite, ce peuple redevenait un peuple qui faisait le mal, qui devait être corrigé. Et bien là, Dieu va au chapitre 9 laisser le peuple recevoir le roi qu'ils veulent. C'est Saül, cet homme qui est très grand, cet homme qui est un mauvais berger, cet homme qui ne connaît pas les choses de Dieu et qui croit qu'on peut acheter Dieu. Au chapitre 10, nous allons voir comment Samuel va oindre, ça veut dire qu'il a mis de l'huile sur la tête de Saül. C'était une façon de dire « tu es choisi ». Et le terme « oindre » en hébreu se dit « machar », ce qui a donné en hébreu la personne qui est ointe, le « oint » de Dieu, c'est le « mashiach », qui en français a donné le « messie », et en grec, ça a été le mot « christos » pour « oint » et qui a donné le mot « christ ». Donc « messie » et « christ » veut dire la personne qui a été ointe. Là, dans le cas présent, ça ne sera pas loin de Dieu parfait que nous avons attendu en Jésus-Christ, que nous avons trouvé en Jésus-Christ, qui veut dire Jésus Messie, Jésus oint de Dieu. Ici, Saül va être oint, et il sera choisi plutôt par Israël. D'abord, quand on va chercher qui est roi, Samuel ne va pas dire à tout le monde d'abord que c'est Saül qui a été choisi pour être roi. Il va tirer au sort et va montrer que ça va être dans la famille de Kish. Mais au moment où Saül doit se montrer, il a tellement peur d'être roi, parce qu'il a peur qu'il meure au combat, même s'il est très grand, il est peureux, qu'il s'est caché derrière les bagages de son père. Et on va devoir aller le chercher derrière les bagages pour le choisir comme roi. Donc cet homme, Saül, qui est très grand, mauvais berger, qui ne connaît pas les hommes de Dieu et les choses de Dieu, qui croit qu'on peut acheter Dieu et qui est peureux, cet homme, Saül, pourtant, Dieu va l'utiliser pour délivrer Israël des Ammonites au chapitre 11 et au chapitre 12, il va être confirmé comme roi. Nous allons passer maintenant à l'image suivante. La projection de l'image suivante pour la troisième partie, les chapitres 13 à 17, Saül rejeté, David oint. Vous vous doutez bien que un homme qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui ne s'y intéresse pas, qui croit qu'on peut acheter Dieu, qui est peureux, ne va pas être en mesure de faire la volonté de Dieu très longtemps. Et on va le découvrir déjà au chapitre 13. Samuel avait dit à Saül, « Réunis les tribus d'Israël et attends-moi à cet endroit. Et quand je viendrai, on fera un sacrifice et ensuite tu iras combattre les ennemis. » C'est le chapitre 13. Et pour vous rappeler, vous pouvez penser que ça... Il y a une certaine malchance, même si... la superstition est vraiment inutile dans la foi chrétienne. Le numéro 13, rappelez-vous que ça a été le début de la chute de Saül. Saül, quand il voit que Samuel traîne, tarde, ne lui fait plus confiance, ne fait plus confiance à cet homme de Dieu, lui qui connaît très peu les choses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire, Saül ? Il se dit, Samuel devait venir pour faire un sacrifice, pour faire que Dieu soit content avec nous. Eh bien, moi, je vais faire le sacrifice. Il a oublié une chose, c'est qu'il n'est pas prêtre, qu'il n'est pas censé être, même s'il est roi, il n'est pas censé faire des sacrifices. Il est censé s'appuyer sur les Lévites, qui sont les responsables de tout le système sacrificiel, et sur Samuel aussi. Et les sacrifices ne sont pas là pour manipuler Dieu, mais pour montrer la reconnaissance envers Dieu et le fait que l'on se confie en Dieu. Saül, dans ce chapitre 13, ne comprend pas cela, et lui va juste croire que c'est une technique pour que Dieu soit avec nous, pour qu'on gagne la victoire. Donc il va faire le sacrifice, tuer un animal, le brûler, et Samuel va arriver. Et quand il va arriver, le prophète, il va dire au roi Saül, « Malheureux que tu es. Roi Saül, Dieu voulait établir ta royauté pour toujours, mais par ta désobéissance, ton manque de confiance en Dieu, tu as condamné ta maison, tu as condamné ta royauté. Dieu va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Au chapitre 14 qui suit, nous allons voir comment, face à ses ennemis, Saül ne va pas oser combattre, mais son fils Jonathan, lui, va avoir courage et va prier et va aller à l'attaque. Et avec beaucoup, beaucoup de courage, il va affronter, lui et son compagnon qui porte ses armes, plus de 20 ennemis qu'il va tuer, et il va donner courage à Israël qui va commencer à attaquer. Saül, qui croit comprendre comment ça marche pour plaire à Dieu, va essayer d'être plus pieux. Comment? Par des techniques. Vous savez comment on essaye d'être pieux? On essaye de faire des choses qui nous croyons plaisent à Dieu et que finalement on va manipuler. Alors que ce qui plaît à Dieu, c'est avant tout un cœur obéissant, comme nous allons le voir dans le chapitre 15. Mais d'abord, j'aimerais vous mentionner qu'au chapitre 14, Jonathan, ce héros de l'armée d'Israël, ce fils de Saül, quand il revient avec les autres guerriers, il va marcher et son papa, lui, le roi, avait dit « On ne va pas manger, je vous demande de ne rien manger pendant toute cette journée pour que nous puissions combattre. Ça va être une œuvre pour Dieu et comme ça on va montrer à Dieu qu'on est consacré à Dieu et on va gagner la victoire. » Le problème, c'est que d'abord, Dieu n'avait jamais demandé à Saül de jeûner, de ne pas manger pendant cette journée. Et pour des personnes qui doivent se battre, ce n'est pas très sage de ne pas manger. Saül était en train de faire sa petite religion à sa sauce. Il était en train de faire sa méthode pour essayer de plaire à Dieu. Mais il n'était pas obéissant. Il n'avait pas fait le sacrifice quand Dieu le voulait. Et maintenant, il demandait aux gens de ne pas manger. Jonathan n'était pas là quand on avait dit cette interdiction. Et quand il est revenu, il a mangé du miel. Et il s'est dit, ça fait du bien parce que je suis fatigué. Et suite à cela, son papa Saül, quand il a appris que son fils avait désobéi à son ordre, il a dit, je vais te tuer mon fils. J'avais dit que je tuerais, que celui qui mangerait aujourd'hui avant qu'on combatte serait mis à mort. Je vais te mettre à mort. Et ce n'est que par les autres personnes d'Israël qui avaient vu la victoire donnée à travers Jonathan, qu'ils vont empêcher Saül de tuer son propre fils. Parce que Jonathan avait désobéi, non pas à Dieu, mais désobéi à l'ordre que son père avait donné alors qu'il n'était pas là. Vous voyez comment Saül n'est pas un bon berger. Il ne prend pas soin de ses brebis, il les fatigue avant de les faire combattre. Il les fragilise, les rend incapables de se défendre. Vous vous rappelez ces caractéristiques? Saül est un homme qui était très grand, mais qui avait peu de courage, qui était peureux. Un mauvais berger, un homme qui ne connaît pas les choses de Dieu et qui croit qu'on peut acheter Dieu. Il a essayé d'acheter Dieu avec son jeune, jusqu'à être prêt à tuer son propre fils. Nous allons voir maintenant au chapitre 15, Samuel va donner une chance encore. Dieu va donner une chance à Saül. Il va lui dire, nous allons te demander de détruire toute cette tribu d'Amalek. Tu vas te battre. C'est des hommes très méchants, très mauvais. Tu vas les détruire tous et tu ne vas rien prendre comme butin. Tu vas brûler, détruire tout ce que tu prends. Toutes les personnes qui sont vaincues, tu vas les mettre à mort parce que c'est des personnes très mauvaises. Saül va commencer et va combattre. Va obéir à Dieu, va prendre son courage jusqu'à un certain point, mais quand il voit qu'il gagne, le butin, il va en garder une partie. Plus encore, au lieu de tuer le roi, il va faire le généreux. Il va dire au roi, je ne vais pas te tuer, si tu veux, nous allons être amis. Et quand Samuel arrive, il est en colère. La chance que Dieu lui donne d'être fidèle, de suivre ce que Dieu lui demande, Saül, lui, il le transforme en une façon de se faire des amis avec des gens très mauvais. Et Samuel va dire, maintenant, c'est fini. C'est fini de toi. Et il va tuer ce roi. C'est Samuel qui va tuer ce roi mauvais, qui était un homme qui avait tué beaucoup d'hommes et de femmes en Israël. Et ensuite, Saül va montrer son cœur. Il va dire à Samuel, s'il te plaît, ne pars pas, reste avec moi pour offrir le sacrifice, sinon les anciens d'Israël vont croire que Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il s'en fiche que Dieu lui a abandonné, mais du moins que les apparences sont sauves, ça va bien. Ce qui intéresse Saül, c'est les apparences, de faire des beaux sacrifices, mais son cœur est loin de lui, est loin de Dieu. J'aimerais qu'on passe à l'image suivante qui va nous mentionner deux versets importants. D'abord, j'aimerais vous lire le verset de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas des beaux sacrifices. Si Dieu est le créateur de l'univers, honnêtement, il va pas se nourrir de ces sacrifices que les gens font. C'était juste une façon que Dieu avait donnée pour qu'on puisse lui répondre, une des façons de lui montrer qu'on lui faisait confiance. Mais la façon la plus importante qui est mentionnée dans ce verset, c'est l'obéissance. L'obéissance, qu'est-ce que c'est? L'obéissance, c'est quand quelqu'un à qui on reconnaît une autorité nous parle, on l'écoute, on entend sa parole, on l'écoute et on la suit. C'est l'attitude d'un enfant envers son père ou sa mère qui lui veut du bien. C'est une façon de reconnaître que l'amour de celui qui a autorité est accueilli. Et que nous allons suivre son conseil pour apprendre, pour grandir. Mais Saül, lui, ne veut pas l'obéissance. Et au chapitre 16, on va avoir l'histoire de Samuel, pardon, pas de Samuel, de David. Au chapitre 16, on reste au niveau de la projection sur ces deux versets, hein, du chapitre 15 et du chapitre 16, parce que on va avoir un deuxième verset à lire ensemble, le deuxième verset à lire ensemble. Mais au début du chapitre 16, c'est l'histoire comment David va être choisi. Vous vous rappelez comment Saül a été choisi? C'était un homme très grand? Un mauvais berger? Il ne connaissait pas les choses de Dieu ou les hommes de Dieu? Il croyait qu'on pouvait manipuler Dieu? Et il était peureux. Là, dans le chapitre 16, nous allons découvrir un autre homme. Dieu va parler à Samuel, le prophète Samuel, le juge Samuel, et va lui dire, va où je te dirai, te montrer qui est celui que j'ai choisi, qui est celui que je veux, moi, avoir pour roi d'Israël. J'ai donné à Israël le roi qu'il voulait, ce grand gaillard impressionnant qu'ils souhaitaient, je leur ai donné le plus grand qu'ils avaient. Ils ont commencé à voir les problèmes. Maintenant, je vais leur préparer celui que moi je veux leur donner comme roi. En espérant qu'ils ont compris que l'apparence ne les rendait pas heureux, que ce roi d'apparence n'était pas un bon roi. Je vais t'envoyer dans la famille d'Issaï. Et Samuel, le juge, va aller dans cette famille. Et il va demander, parce que Dieu lui a dit, ça va être un des fils de Issaï, il va demander à cet homme, Issaï, de lui montrer ses fils. Il est content, il va lui montrer d'abord son aîné, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Et à chaque fois, dans son cœur, Samuel, le juge et prophète Samuel, entend que Dieu lui dit, non, ce n'est pas celui-là. Ils sont tous beaux, grands et forts, mais ce n'est aucun de ceux-là. Alors Samuel est déçu et il va dire, Est-ce que tu n'as pas d'autre fils, Isaïe? Et Isaïe va dire, Si, j'ai un autre fils, mais lui, il est dans les champs en train de prendre soin des brebis. Il est en train d'être berger avec mon troupeau. Et il va le faire venir. Il est petit, David. Et il est un bon berger. Saül était grand. et un mauvais berger qui ne prenait pas soin même d'ânesse, David est petit, et il est un bon berger. Et plus encore, il aime Dieu. Et alors que Dieu révèle à Samuel qui est celui qu'il veut pour roi, nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 7, c'est le deuxième verset, hein, celui qui est en dessous, que j'aimerais vous lire. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, en parlant de Saül, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aimerais vous inviter à méditer cet enseignement, ce verset pendant cette semaine. Et nous allons continuer et voir un petit peu qui est ce David. Nous allons passer à l'image suivante qui nous remontre à nouveau cette partie numéro 3, où Saül est rejeté et David oint. Une fois que David est oint, donc David il est petit et bon berger, contrairement à Saül, qui est grand et mauvais berger. Ensuite, au chapitre 16, quand Saül est soucieux parce qu'il y a des mauvais esprits qui le tourmentent, on va faire venir David, qui va chanter des chants à la gloire de Dieu, parce que David est un amoureux de Dieu, qui aime chanter à Dieu. Non seulement il est berger, un bon berger, mais alors qu'il est berger, il chante des chants à la gloire de Dieu. David connaît Dieu. David connaît les choses de Dieu, alors que Saül, lui, ne connaît pas et n'était pas capable, ne savait même pas que Samuel était prophète. Ce David, quand il va au chapitre 17, apprendre que l'armée d'Israël est terrifiée, parce qu'il y a un géant qui leur dit « Choisissez un champion dans votre armée et il va se battre contre moi. Le gagnant de ce combat définira quelle armée a gagné, et les autres seront ses esclaves. Si moi, Goliath, je bats votre champion, alors vous serez nos serviteurs. Si vous nous battez, alors nous serons vos serviteurs. » Goliath est le plus grand. À votre avis, qui serait le combattant logique pour s'opposer à Goliath? Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui est grand, qui est fort? Oui, il s'appelle Saül, mais il a un problème ce Saül, c'est qu'il est peureux. Il est grand, mauvais berger, peureux. Le petit David, lui, quand il va venir et qu'il va entendre parler du défi de Goliath, il va se mettre en colère. Il va dire comment ce gars-là ose défier les armées de Dieu, du Dieu d'Israël. Si personne ne veut se battre, moi je vais me battre. Et David, après qu'on l'autorise, va aller se battre. Il ne va pas se battre avec les armes habituelles qui sont l'épée, il va se battre avec l'arme du berger, d'un berger modeste, avec une fronde. Une fronde, c'est deux ficelles attachées à un bout de cuir, et dans ce morceau de cuir, on mettait une pierre, on la faisait tourner, et quand on lâchait une des deux ficelles, elle partait, cette pierre, pour toucher et frapper. Ça demandait beaucoup d'entraînement pour être précis. Et David, lui, quand il était berger, avait appris à protéger le troupeau, lui qui était bon berger. Il avait réussi avec la fronde à chasser des ours, des lions. Lui, David, était bon berger. Il était petit, bon berger, courageux. Et ce courage, il va le manifester parce qu'il va courir vers Goliath. Non seulement il va l'affronter, mais il va venir à lui en courant. Et Goliath n'aura même pas le temps de frapper le petit David. Car David va le envoyer une pierre en plein front. Goliath va tomber à genoux, va s'effondrer. Ensuite, David, qui n'a aucune épée, va prendre l'épée de Goliath et lui trancher la tête. Ce géant, David va le vaincre avec une grande simplicité, avec un grand courage. Vous vous rappelez, Saül, ce grand homme, mauvais berger, qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui croit qu'on peut acheter Dieu et qui est peureux, était incapable d'être un bon roi. Et David, cet homme petit, ça ne veut pas dire qu'il était faible, qu'il n'était pas musclé, mais il n'était pas très grand comme Saül. Cet homme petit, ce bon berger, qui est prêt à risquer sa vie pour défendre son troupeau, tout comme il va risquer sa vie pour défendre tout Israël, à l'occasion du chapitre 17 et à travers quasiment toute sa vie. Il connaît les choses de Dieu, il aime Dieu, et il est l'exemple, le roi que Dieu veut. Nous allons passer à l'image suivante pour la quatrième partie, qui va être la deuxième, qui va commencer la fin du règne de Saül et préparer la venue de David. Je ne vous la décrirai pas avec autant de détails. Je pense que vous avez vu, dans une certaine mesure, qu'est-ce qui se passe, comment Saül est le mauvais roi, ce roi selon l'apparence, qui a l'apparence qu'il faut, qui est grand, costaud, beau, mais qui n'est pas du tout un bon berger. Et ce petit David, qui est le berger selon le cœur de Dieu. Au chapitre 18 à 20, nous voyons comment Saül va devenir jaloux. Il va d'abord essayer de tuer David. Comment? Par ruse. Parce qu'il est jaloux que David soit un plus grand guerrier. On dira, il y aura des jeunes filles qui chanteront, Saül a tué des milliers, David a tué des dizaines de milliers. Et il commence à voir que le courage de David met en danger sa royauté. Eh oui, le roi était censé être celui qui était le plus courageux, et David est bien plus courageux que Saül, même s'il est plus petit, même s'il est moins impressionnant. Lui, c'est un bon berger. Lui, il prend soin des autres. Et le fils de Saül, Jonathan, va aimer David et va lui dire, même si mon père ne t'aime pas, même si mon père est jaloux de toi, moi, je vais être à tes côtés. Et Saül va essayer de piéger David en lui disant, si tu veux être mon gendre, il le dira de manière indirecte, rusée. Il te suffit que tu tues plus de 100 philistins et que tu m'en montres la preuve. David, qui n'est pas orgueilleux, dira, mais qui suis-je pour être l'époux de la fille du roi? Rappelez-vous, David a été oint, mais l'onction était par Samuel. Ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël le reconnaissait comme roi. C'est juste que Samuel l'avait préparé en lui disant, un jour tu seras roi d'Israël. Tout comme pour Saül, ce n'est qu'après avoir gagné des victoires qu'il a été reconnu comme roi d'Israël. David sait que ça viendra. Si cette parole de Dieu s'accomplit, mais pour l'instant il ne l'est pas et il n'est pas présomptueux. Il ne croit pas que devenir roi va se faire par ses forces. Aussi, il dit, qui suis-je, moi, pour avoir la fille du roi Saül, loin de Dieu, en mariage? Cependant, il va combattre et va tuer ses Philistins, et Saül va donner Michal comme fille, sa fille comme à David. Mais ensuite, il va essayer de se servir de sa fille pour piéger David. Parce qu'une fois qu'il est endormi, David, dans la chambre de sa fille, il va réunir des soldats pour aller le tuer. Mais sa fille, qui est amoureuse, Michal, qui est amoureuse de David, va lui dire, enfuis-toi, on veut te tuer, mon père veut te tuer. Et David va s'enfuir au chapitre 19. Au chapitre 20, Jonathan va faire alliance avec David en lui disant, s'il te plaît, je vais essayer de te protéger comme je peux, mais toi, protège-moi et protège mes enfants. Ensuite, ne les détruis pas, s'il te plaît, car je sais qu'un jour tu seras roi d'Israël. Nous allons passer maintenant au chapitre 21-26, prochaine image à projeter. Saül ne va pas arriver à tuer David. On va voir comment David va être protégé à travers toutes les difficultés, même si David va tuer des prêtres qu'il croit avoir aidé David. Ensuite, David va combattre des Philistins. Alors que Saül essaye de tuer David au chapitre 24, que David est pourchassé comme un chien, David va avoir une occasion de tuer Saül, parce que Saül va entrer dans une grotte croyant qu'il est seul, et David est au fond de cette grotte. David va couper un pan du manteau de Saül, et quand Saül va sortir de la grotte et qu'il sera loin, une fois que David est en sécurité, il va crier au loin: Saül, pourquoi me cherches-tu du mal alors que moi, je ne t'ai pas tué alors que je le pouvais? Et il va montrer le pan du manteau et en lui disant: Roi Saül, regarde, je t'ai coupé un pan de ton manteau, un bout de ton manteau. Et Saül va se repentir, va lui dire: Mon fils David, pardon, pardon. Mais David sait déjà que Saül se repent pour un temps et ensuite sa violence recommence. Saül ne sait pas ce que c'est la repentance. Sa violence, c'est qu'il veut garder le royaume et il sait que David va le prendre s'il reste. Donc il faut tuer David. Au chapitre 25, un homme stupide va manquer de respect envers David. Alors, il s'appelle Nabal. Nabal, en hébreu, ça veut dire imbécile, homme stupide. Donc ce nom nous dit quasiment qui est cet homme. Et de fait, il va se montrer un imbécile, manquer de respect à David. David pense aller le tuer parce qu'il a vraiment manqué beaucoup de respect à David. Et la femme de Nabal, Abigail, est intelligente, elle. Avant que David arrive pour tuer Nabal, elle va envoyer des vivres et des choses pour aider David en lui disant: Pardonne s'il te plaît, Seigneur David, pardonne à mon époux, il est stupide. Mais s'il te plaît, reçois cette nourriture comme une bénédiction, et pardonne, s'il te plaît, ne nous détruis pas. Et David va s'arrêter et ne va pas détruire Nabal. Mais Nabal, quand il va apprendre ce qui s'est passé, va mourir sur le coup. Et Abigail, jeune veuve, va ensuite être choisie par David pour être sa femme. Alors, vous vous rappelez qu'il a déjà eu une femme, David? On peut revenir à l'image précédente. C'était au chapitre 18, elle s'appelle Michal. Il y a un petit problème, c'est que quand David a été pourchassé, Saül a donné Michal à un autre homme, Paltiel. Il a donné sa fille à un autre homme, ce qui veut dire que David, la femme qu'on lui a donnée, on lui a reprise. Et quand il est dans le désert, il va prendre une première femme, Ahinoam, et Abigail sera sa deuxième femme. Un des problèmes de David, ça va être qu'il n'aura pas eu une vie matrimoniale heureuse. D'abord, on va lui voler sa femme, ensuite il sera pourchassé. Il prendra Ahinoam, une première femme, ensuite il épousera une veuve, Abigail, ici dans le chapitre 25, qui est une façon de la protéger si vous voulez, des problèmes, parce qu'une veuve était menacée, était sans protection. Et donc il y avait un aspect social à l'époque de protection qui était permis. Au chapitre 25, 26, David va encore épargner Saül. Il aura une deuxième occasion de le tuer et ne le fera pas. Montrant ainsi que si Dieu veut donner le trône à David, David ne le prendra pas à Saül. Même si Saül manque de respect, manque de sagesse envers David, David ne va pas le tuer. David ne va pas prendre le royaume comme son bien. S'il le veut, il le veut comme un don de Dieu. Vous vous rappelez comment Saül croyait qu'on peut acheter Dieu dès le début, il a voulu payer pour que le prophète lui dise où étaient ses ânesses? David, lui, ne paye pas, ne fait pas du donnant-donnant. Il a compris la grâce de Dieu, que Dieu, s'il veut donner, donnera, et qu'on peut chercher à lui plaire, mais qu'on ne manipule pas Dieu. C'est pour cela que David ne va pas tuer Saül, parce qu'il sait que si Dieu lui a promis de lui donner la royauté, Dieu va le faire, en son temps. Et David doit juste chercher à rester fidèle à Dieu du mieux qu'il le peut. Vous vous rappelez des caractéristiques de Saül? Il est grand, un mauvais berger. Il ne connaît pas les choses de Dieu, il croit qu'on peut acheter Dieu et il est peureux. Et rappelez-moi, David, ses caractéristiques. Il est petit. C'est un très bon berger. Il connaît les choses de Dieu, il chante des chants à la louange de Dieu dès qu'il a du temps. Il ne cherche pas à acheter Dieu. Il sait ce que c'est que la grâce, le don de Dieu, l'amour de Dieu. Et le cinquième point, il est courageux. Un courage fondé sur sa foi en Dieu. Maintenant, nous allons voir les derniers chapitres de 1 Samuel. On peut tourner à la page suivante, au niveau du graphique. Sixième partie, chapitre 27 à 31, les Philistins tuent Saül. Brièvement, ce ne sera pas David qui va tuer Saül. Ce sera finalement le péché de Saül qui fait que Dieu ne le protège plus. Comme Saül n'est pas fidèle à Dieu, Dieu n'est pas fidèle à Saül. Et Saül va se trouver détruit par les ennemis d'Israël qui sont les Philistins. J'aimerais que nous passions à la dernière image, qui est la même que celle que vous avez eue au début du culte, du juge Samuel vers le futur roi David. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. J'espère que vous avez vu à travers ce livre la différence entre Saül et David. Rappelez-moi les cinq caractéristiques de Saül. La première, c'est qu'il était grand, très grand, le plus grand d'Israël. La deuxième, c'est que c'était un mauvais berger. Il ne prenait pas soin des autres, il s'intéressait à son bien-être. C'est pour ça qu'il a voulu tuer David. Troisième point, il ne connaissait pas les choses de Dieu. Quatrième point, il croyait qu'on pouvait acheter Dieu. Cinquième point, il était peureux. Il n'affrontait pas la difficulté. En réponse à ces cinq points, du côté de David, premier point, David était petit. Il n'était pas impressionnant. Deuxième point, c'était un bon berger qui aimait les brebis, qui aimait les troupeaux dont il avait la charge, et qui était prêt à risquer sa vie pour cela. Troisième point, il connaissait les choses de Dieu, il aimait Dieu, il aimait chanter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Quatrième point, David n'a jamais cherché à acheter Dieu. Il savait que Dieu donne et que quand Dieu donne, c'est parce que Dieu a choisi et qu'on ne manipule pas Dieu. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, il n'est pas dans une boîte. Dieu est une personne avec qui on entre en relation dans la prière et par la foi. Et le cinquième point pour David, il est courageux. D'un courage fondé sur sa foi, d'un courage fondé sur sa confiance en Dieu. Alors que nous finissons ce sermon, ce temps de méditation sur l'enseignement de 1 Samuel, j'aimerais vous poser la question. Et vous? Est-ce que vous regardez à ce qui frappe les yeux ou est-ce que vous regardez au cœur? Est-ce que vous cherchez à ressembler à Saül, à avoir une belle apparence? Ou est-ce que vous cherchez à ressembler à David, qui n'a pas une apparence extraordinaire, mais qui est un bon berger, qui prend soin des autres, qui est prêt à prendre du temps pour les autres, qui est prêt à donner, à mettre les autres à une place plus importante, qui ne cherche pas d'abord son propre plaisir, mais qui est un serviteur? Être un berger, c'est être un serviteur. Et beaucoup des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament étaient des bergers. Vous pourriez me dire qui sont les bergers dont vous vous rappelez? Alors, on va commencer par les premiers dans l'Ancien Testament, dans Genèse. On peut commencer par Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches, les trois pères d'Israël. Ensuite, vous pouvez penser au suivant, Joseph. Vous pouvez penser ensuite à Moïse, qui a été pendant 40 ans berger dans le désert. Et maintenant, vous pouvez penser à David, qui était un berger et qui savait que Dieu était un bon berger. C'est pour ça que David a écrit le psaume 23, que je vous invite à méditer alors que on lit la vie de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si David a été un très bon berger, c'est qu'il a découvert que Dieu était son berger. Qui est votre berger? Qui est celui en qui vous vous confiez quand cela ne va pas? Où est votre cœur? Où est notre cœur? Est-il dans l'apparence? Est-ce que nous essayons, comme Saül, d'acheter Dieu avec des sacrifices, en payant un prophète? Ou est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce qu'on se fiche des choses de Dieu, qu'on veut juste obtenir des résultats, et comme dans ce cas-là, c'est seulement quand on a un problème qu'on va aller prier? Ou est-ce qu'on a une vraie relation avec Dieu, et qu'on a du plaisir à louer Dieu en tout temps, à prier, à chanter Dieu comme David le faisait? Et de votre relation à Dieu découlera l'élément suivant. Est-ce que vous êtes courageux face aux difficultés de la vie? Parce qu'il y en a. Chacun de vous fait face à des difficultés. Est-ce que vous êtes courageux comme David? Ce courage étant enraciné dans votre foi que Dieu va être votre berger? Ou est-ce que vous êtes peureux comme Saül? Vous pouvez être grand, fort, mais vous pouvez agir comme des peureux. Nous pouvons agir comme des peureux quand nous nous appuyons sur notre propre force seulement, parce que notre propre force est bien limitée. Voulez-vous apprendre le courage dans la petitesse comme David l'a appris? Le courage d'affronter les difficultés, comme David quand il était tout seul, et qu'il y avait de grands dangers, comme un loup, comme un lion, comme un ours qui attaquait. Et que par la foi, il affrontait ses ennemis pour protéger le troupeau. Êtes-vous prêt à être courageux dans votre vie? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui et que j'aimerais vous inviter à méditer pendant cette semaine. Est-ce que vous serez comme David plus tard? Est-ce qu'on se rappellera de vous comme David ou comme Saül? Un homme ou une femme d'apparence ou un homme ou une femme de cœur? Un homme ou une femme qui ne se préoccupe pas des autres, qui est un mauvais berger? Qui se préoccupe d'abord de son petit plaisir quand il a du temps, quand il a la possibilité ou elle a la possibilité? Ou comme quelqu'un qui met les autres en premier, comme un bon berger, qui est un serviteur, qui veut le bien de l'autre avant son bien-être personnel? Je vous invite à méditer sur David et Saül. Finissons par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous connais. Tu connais notre cœur. Tu sais qui nous sommes. Aide-nous, Seigneur, à voir avec honnêteté si on ressemble plus à Saül ou à David. Et montre-nous comment ressembler toujours plus à cet exemple que tu nous donnes en David. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous préoccuper de l'apparence, mais à nous préoccuper du cœur. Apprends-nous, Seigneur, à être courageux dans les difficultés de nos vies, à te laisser nous guider comme notre berger, afin que, en même temps qu'on apprend à vivre dans ta présence, que nous apprenions à protéger les petits, comme un bon berger, à prendre soin de ceux qui sont fragiles, sans être méprisant et écrasant. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être serviteur, à être berger. En ton nom nous prions, Seigneur Jésus. Amen.